un nouveau président a été élu. Élu, ou plutôt réélu, et dans l'indifférence quasi générale, c'est Miguel Díaz-Canel. Il a récolté 97,66% des voix dans un pays où l'opposition est illégale, où les pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant n'ont cessé de croître à cause de l'embargo américain et des conséquences du Covid-19.
Ça mérite donc une analyse avec une spécialiste de la région.
Évidemment, et c'est Janice Argaio, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Grenoble. Madame Argaio, bonjour.
Bonjour, buenos días.
Alors cette réélection, c'est quoi? C'est une continuité, un progrès, une régression?
Régression, je ne sais pas, mais on est vraiment sur quelque chose qui est un verrouillage politique et une tentative d'amorce de libéralisation économique. C'est-à-dire que oui, Raúl Castro avait commencé à donner un peu plus de pouvoir au secteur privé. Il avait instauré ce qu'on appelle le cuenta propismo. Les Cubains pouvaient devenir leur propre employeur. Ils n'étaient plus obligés de travailler pour l'État, dans un cadre très strict, en payant des impôts assez forts. Donc ça, c'est Raúl Castro qui avait instauré ce cuenta propismo. Miguel Díaz-Canel est plus quand même dans un discours qui nous parle d'économie planifiée, qui nous parle du socialisme cubain, qui nous parle des fondements de la révolution. Alors je ne sais pas si on peut parler de régression, mais un retour aux sources, c'est indéniable.
Mais qu'est-ce qui a changé alors sur place?
Dans la rue, ouvertement, on me dit, et pas à voix basse, le socialisme est mort. C'est la première fois que je rencontre des gens qui étaient à la retraite et qui me disent, on m'a rappelé parce qu'il n'y a plus de jeunes pour assurer l'ouverture des musées, pour assurer le service dans les hôtels. Maintenant, on a quasiment un membre dans chaque famille qui fait la queue une journée par semaine devant les magasins d'État pour obtenir un paquet de riz, un paquet de sucre. Les gens rentrent en disant, finalement, c'est à cabo, il n'y avait plus. C'est la première fois que les autorités ne remettent pas quelqu'un dans un appartement quand l'habitant précédent, finalement, s'est exilé. Parlons peu, parlons bien. Effectivement, il y a eu une grosse vague de migration. Les autorités cubaines essaient de repousser le recensement le plus possible parce qu'ils ne veulent pas savoir combien de personnes sont parties. En fait, il y a des très jeunes, il y a la génération des 40 ans et plus, mais les médecins, les instituteurs, les professeurs, les avocats, ils s'en vont une fois qu'ils ont été formés à Cuba. C'est vraiment la première fois que je sens ce manque d'envie de se battre. Les rues étaient sales, que jusque-là, la population allait nettoyer dans les rues, y compris sans qu'on demande aux gens. Ça faisait partie du processus. Il faut nettoyer, il faut montrer qu'on est digne, il faut montrer qu'on aime notre pays. C'est plus le cas du tout. Quand il y a un cyclone maintenant, la révolution, elle a qu'à nettoyer à ma place.
Et les relations avec les États-Unis, alors, dans tout ça?
On a un Joe Biden qui arrivait et qui était espéré comme, pas comme le sauveur, mais comme une personne d'ouverture à Cuba. Or, ça n'a pas été le cas du tout. Il a refusé de sortir Cuba de la liste des pays considérés comme terroristes ou soutenant le terrorisme par les États-Unis. Les lois extraterritoriales états-uniennes empêche les compagnies mondiales de faire du commerce avec Cuba. Donc Joe Biden n'a pas du tout réouvert le dialogue. Au contraire, il a une attitude presque considérée comme arrogante. C'est un terme que j'ai beaucoup entendu à Cuba, parce que silence et en même temps, pas de dialogue, pas d'envie de discuter, pas d'envie de reconstruire quelque chose. Donc les Cubains sont franchement déçus de l'administration Biden.
Alors ça a des répercussions côté russe ?
Des répercussions, oui, comme à chaque fois que l'administration états-unienne ferme ses portes, et Cuba se tourne vers d'autres pays. Et donc là, il y a un retour, on va dire, de l'amitié cubano-russe. Cuba n'a pas condamné l'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Voilà, on sent bien qu'il y a une amitié renouée, des liens qui se retendent avec la Russie, parce que c'est intéressant aussi, sans doute, pour les Russes, d'avoir cette petite île tout près des États-Unis comme alliée. Puisque l'OTAN est aux portes de la Russie, eh bien la Russie se dit, je vais avoir ce premier pas vers l'Amérique latine. De toute façon, la Chine a pris trop de poids économiquement dans les relations commerciales latino-américaines. Donc les Russes sont vraiment intéressés à reprendre un petit peu des liens économiques et commerciaux avec la totalité de l'Amérique latine.
Bien, Madame Argaio, merci pour ces précisions.